Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu notre Père en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret liturgique qui est au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. De quel amour sont aimées tes demeures, ô Éternel, Dieu de l'univers. Mon être tout entier soupire après de la présence de l'Éternel. Mon cœur et ma vie sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle a trouvé un nid pour abriter sa couvée. Et moi, j'espère ta présence, ô Éternel, Dieu de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter et te chanter encore. Heureux ceux dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant toi et sont élevés en ta présence. C'est ce psaume 84 dont je viens de vous lire quelques phrases, que je vous propose de chanter maintenant pour être dans la louange à Dieu, donc le psaume 84 dans le psautier français, « Dans ta maison, je suis heureux », les trois premières strophes. pouvez prendre place. Alors après avoir ainsi accueilli la présence de ce Dieu qui nous a précédés, bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte. C'est une force, c'est une joie de se rassembler ainsi pour s'ouvrir ensemble à notre Dieu. Bienvenue à Marion Muller-Collard, qui est théologienne, écrivain. Enfin, tu n'aimes pas quand on t'appelle théologienne. Ta profession, c'est peut-être écrivain, aumônier, mais j'allais dire plutôt bienfaisante, en fait. C'est un métier aussi, en particulier par ses livres, dont bien des personnes m'ont dit que ça les a vraiment aidés, et puis par des participations à des émissions de télévision, d'articles. Alors bienvenue à Michael qui a demandé le baptême vendredi dernier et qui va aujourd'hui faire sa profession de foi parmi nous. Nous poursuivons en écoutant ce que Dieu nous propose de vivre. Écoute le Seigneur notre Dieu, nous dit Jésus-Christ, c'est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. Voici le second point qui lui est indissociable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Avec cet autre psaume de la Bible, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour arriver à vivre de cet amour qu'il nous inspire. Ô Éternel, améliore-moi et reprends-moi. Oui, mes péchés me submergent, leur poids trop pesant m'écrase, c'est là le prix de ma folie. Brisé, écrasé, à bout de force, mon cœur gronde et rugit en moi. Éternel, tout mon désir est devant toi, et rien de ma plainte ne t'échappe. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Amis et compagnons se tiennent à distance, et mes proches s'écartent de mon mal. Et moi, comme un sourd, je n'entends rien, comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. C'est toi que j'espère, ô Éternel. Éternel mon Dieu, toi, tu me répondras. Que chacun reçoive l'assurance de la bienveillance de Dieu irréductible à son égard. Que chacun reçoive de naître et grandir par le Créateur de la vie. C'est la promesse de l'Évangile. Lève-toi et va, nous dit Jésus-Christ. Ta foi t'a sauvé. Avance dans la paix. Nous chantons notre reconnaissance.
Nous avons la joie d'accueillir Michael, donc, qui a choisi de devenir chrétien, et même protestant, et puis en fait, donc, oratorien, si je puis dire, puisque c'est dans notre chapelle, finalement, que vous avez choisi de marquer ce parcours. Alors, vous avez choisi de recevoir le baptême en privé, enfin, nous étions quatre, ici même, il y a 2 jours, dans l'intimité, comme signe de cette alliance, finalement, si intime, qui se tisse entre Dieu et chacun d'entre nous, individuellement. Et puis, de faire une profession de foi au cours de ce culte, parmi nous, dans la communauté rassemblée, comme un signe de l'appel de Dieu qui nous rassemble en un corps, effectivement. Nous ne sommes pas seuls en ce monde. Nous formons le corps du Christ. Au-delà des chapelles particulières, des institutions, au-delà de l'espace et du temps. Alors, Michael, en fait, depuis toujours, vous êtes ouvert à la foi, élevé dans la connaissance de la religion, lisant la Bible, intériorisant, priant, réfléchissant, et puis vous engageant aussi. Alors, vous êtes très sensible à la communauté chrétienne universelle, au-delà des institutions ecclésiales, catholiques, protestants. Vous pensez aussi aux chrétiens persécutés dans le monde, à ceux qui ne peuvent nourrir leur foi aussi facilement que nous pouvons le faire ici. Merci pour votre élan de foi, de solidarité, de pensée. Tout ce chemin parcouru jusqu'à maintenant nous porte à la reconnaissance, à la louange. Eh bien, ce chemin est ouvert devant vous, pas après pas, jour après jour, semaine après semaine. Le Seigneur sera avec vous tout au long de ce chemin. Michael, Dieu vous bénit et vous accompagne sur le chemin de votre vie. Dieu vous donne par sa présence en vous et pour vous une force et une lumière qui vous met debout, qui vous autorise à être vous-même ce que vous êtes, à prendre votre part dans les œuvres de Dieu à votre façon, librement et joyeusement, selon ce que votre conscience, éclairée par l'Esprit, vous inspirera. En réponse à cet amour de Dieu, à sa bénédiction, vous avez choisi de confesser votre foi en communion de cœur et de foi avec les autres chrétiens. Et donc, vous avez préparé un texte librement, personnellement. Et c'est ce texte qui sera la confession de foi, eh bien, de notre Église, de notre Assemblée ce matin. Et pour vous unir par la foi à cette déclaration de croyance chrétienne, je vous propose de vous lever.
Je crois en un seul Dieu, notre Père puissant, créateur du ciel, de la terre et de l'humanité tout entière. Il nous aide tout au long de notre vie, à travers nos épreuves et nos réussites. Je pense à ce Père qui nous rassure. Je crois en Dieu par Jésus-Christ, Jésus-Christ notre Seigneur, notre Messie, qui nous accompagne à chaque instant de notre vie. Il est notre Sauveur, mort sur la croix et ressuscité. Il est le chef de l'Église, le chemin, la vérité, la vie. Il est mon frère, mon ami, notre Seigneur. Je crois à la vie éternelle et au Saint-Esprit qui nous rappelle la présence de Dieu à nos côtés et qui nous aide à choisir le bien. Je crois au message de l'Évangile et à l'union des chrétiens en Christ afin de manifester dans le monde la merveille qu'est l'Évangile et ainsi faire cesser les persécutions des chrétiens.
Grand merci, Michael, pour ces mots. Et nous répondons donc par le Te Deum. Grand Dieu, nous te bénissons. sera Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Vous pouvez reprendre place, mais je garde Michaël quelques instants pour vous accueillir le plus chaleureusement possible et vraiment très sincèrement dans cette grande famille, j'allais dire ce club des hommes, des femmes qui cherchent Dieu en Jésus-Christ. Alors vous avez reçu le baptême, signe de l'amour de Dieu, du oui de Dieu sur vous. Et par votre confession de foi, eh bien vous répondez à cette grâce, par votre foi, un oui à ce Dieu qui nous donne la vie. Nous vous recevons avec grande joie et reconnaissance comme membre de l'Église chrétienne universelle. Grand bienvenue dans cette communauté. Alors c'est vrai que vous avez tout ce qu'il faut, je vais dire, pour nourrir votre foi et votre réflexion. La lecture de la Bible que vous pratiquez, la prière des personnes autour de vous qui vous aiment et qui comptent sur vous. Et puis, modestement, eh bien, ces assemblées de chrétiens où nous ouvrons la Bible ensemble pour s'interroger ensemble sur ce que Dieu nous dit, bénéficier du témoignage des uns et des autres, communauté où votre témoignage est important aussi. Et puis ces rassemblements du culte où mystérieusement nous nous ouvrons par cette assemblée à quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance aussi et nous aide à faire un pas de plus. Alors bien entendu, ce que vous entendez à l'Église, ce que vous entendez des autres, ne sera parole de Dieu pour vous que si vous digérez ce que les autres vous apportent, c'est le faire vôtre comme nourriture pour votre foi, votre conscience. Aucune parole n'est obligatoire ici pour être crue ou pour être adoptée sans réserve. Michaël, le Dieu de Jésus-Christ, vous accompagne sur la route de votre vie. Il donne souffle à votre personnalité profonde, à vos paroles, à vos actes. Il éclaire pour vous ce monde et sa beauté, ses habitants, leur espérance, et puis nos projets à vivre ensemble. Que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ nous a promis, vous renouvelle jour après jour ses dons de plus en plus. Notre Père, nous te remercions pour Michaël que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Merci pour tout ce qu'il nous a apporté et pour ce qu'il est. Merci de l'avoir accompagné et de le garder fidèlement. Aide-nous à nous-mêmes, jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, à vivre sans cesse plus de ton esprit, de ta parole. Ô toi, Dieu de Jésus-Christ, sois béni au-delà de tout ce que l'on peut dire. Amen. Grand merci, Michaël.
Voilà, je vous remercie d'abord chaleureusement pour votre accueil qui renouvelle en moi la joie de l'enfant prodigue du retour à la maison. Et nous lisons dans le livre du Deutéronome au chapitre 34, les versets 1 à 5. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisgah vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Négev, la dépression du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, « Je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, les versets 3 à 9, que je vais vous lire dans la traduction d'André Chouraqui. Jésus est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, étendu à table. Vient une femme. Elle a un flacon d'albâtre d'un parfum de nard pur, fort cher. Elle brise le flacon et le lui verse sur la tête. Alors certains s'en irritent entre eux. Pourquoi gaspiller ce parfum? Oui, ce parfum pouvait être vendu 300 deniers et plus à donner aux pauvres. Et il la rudoie. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi la tracasser? Elle a bellement agi envers moi. Oui, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle avait, elle l'a fait. Elle a agi par avance et parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Amen, je vous dis, partout où l'annonce sera clamée dans tout l'univers, ce que cette femme a fait sera raconté aussi en mémoire d'elle. Alors, un de mes amis écrivain a coutume de dire que Dieu, finalement, ne s'approche que par les sens. Et effectivement, ces récits que nous connaissons ou croyons connaître ont aussi eu une couleur, du mouvement, une odeur. Ce ne sont pas des choses figées sur le papier de nos Bibles. Et notamment dans ce récit, l'odeur est un élément essentiel, et c'est pourquoi je vous ai amené de l'huile essentielle de nard, et qui va circuler parmi vous sur des petits cotons imbibés de cette odeur, afin que vous puissiez aussi sentir ce texte et cette odeur qui a marqué Jésus jusqu'à la croix par le geste de cette femme. Donc ça circulera parmi vous pendant le jeu d'orgue avant la prédication, c'est ça? Voilà, et nous chantons le psaume 23, mais attention, on m'a mise en garde, il semblerait que le rythme des partitions ne soit pas celui qui va être joué, enfin il y a un décalage qui fait que l'organiste va d'abord le jouer une fois en entier pour que vous puissiez sentir le rythme dans lequel nous allons le chanter. Le psaume 23. Oui, oui. Nous prions, Seigneur, qu'au moment de méditer les Écritures, les mots ne soient pas lettres mortes, mais paroles. Que la parole ne soit pas discours, mais paroles vibrantes. Que soient non seulement ouvertes nos oreilles, mais aussi notre intelligence et notre cœur. Amen. Et aussi notre nez, en l'occurrence, puisque vous allez pouvoir goûter cette odeur très particulière du nard. J'ai vu quelques grimaces s'afficher sur vos visages. Et c'est pas fini, car je vous invite à vous réjouir, car nous allons parler de la mort. Et cette odeur, et effectivement, j'en parlerai un petit peu plus tard, est une odeur qui est destinée à préfigurer quelque chose de la mort. Et le texte nous en parle bien. Ces deux textes nous offrent, chacun à leur manière, une méditation sur la mort. Et si je les ai choisis, c'est qu'il m'apparaît aujourd'hui de plus en plus important de pouvoir méditer notre propre mort, que cela relève d'une hygiène spirituelle essentielle, en particulier dans une société qui peine tellement à en dire et à en faire quelque chose, à dire et faire quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de la pensée magique. Or, la Bible n'est pas le livre de la pensée magique. Elle est le livre du réel métamorphosé par la parole, d'un réel rugueux, parfois inhospitalier, où la parole créatrice et recréatrice de Dieu creuse pour nous pourtant un espace habitable. Et vous verrez qu'il en va de même de cette odeur qui produit d'abord une réaction de rejet et qui finit étrangement, en tout cas à moi, par me manquer quand tout d'un coup elle s'évapore. Ces textes donc invitent chacun à méditer sur sa propre mort et déjà à se réjouir de cet incroyable vecteur d'égalité entre les humains, car que nous soyons puissants ou misérables, jeunes ou vieux, en bonne santé ou affaiblis, plus rien n'y fait, nous sommes tous mortels également, pas plus ou moins mortels, mais également tous mortels, et c'est au moins une qualité qu'on peut reconnaître à la mort, que de nous rendre enfin tous égaux, ce que nous peinons à être au longueur de nos existences. Et alors que la panique nous fait parfois chercher une issue de secours dans la religion, arrive une femme dans l'Évangile qui contrarie nos besoins religieux de déviation, d'échapper de la mort, et même le besoin religieux des propres disciples de Jésus, qui assiste à cette scène et qui rechigne déjà depuis un bon moment à l'idée qu'après avoir enfin trouvé le Messie, il faille le voir mourir. Et cette femme, elle, ne dit rien, mais elle fait ce simple geste qui atteste que oui, lui aussi, le Messie va mourir. En un seul geste, chez Marc, elle, loin, imite l'onction royale destinée au Messie, et dans ce même geste, elle atteste sa mort à venir. En un seul geste, elle le fait Messie et mortel, ce qui est tout à fait contre-intuitif par rapport aux besoins religieux de cette époque et peut-être encore d'aujourd'hui, et elle articule l'inarticulable, l'impensable. Elle abolit aussi une espérance religieuse mal placée qui mise sur l'échappatoire pour nous faire entrer par une toute petite porte dans une espérance finalement tellement plus vaste que celle qui consisterait seulement à trouver le maître de l'évitement. La possibilité d'un Dieu qui ne soit pas métaphysique, pur hélium insaisissable, abstraction nuageuse, prometteur de fumée et promoteur d'illusions. Elle nous offre à voir et à sentir un Dieu concret, un Dieu corps, un Dieu réel qui nous rejoint au cœur de notre réel. Ma subjectivité prêterait volontiers cette parole au geste pourtant muet de la femme. C'est aussi parce que tu n'es pas une issue de secours que je peux te suivre et te croire. Mais rien n'y fait pour ceux qui assistent à cette scène. Le texte nous parle de nard, et maintenant vous savez ce que c'est, et les disciples s'évertuent à parler de parfum. C'est une sorte d'euphémisme olfactif que vous avez pu sentir en faisant passer ces effluves de nard entre vous. le nard n'est pas à proprement parler un parfum. Ou alors, c'est un parfum qui attaque et qui nous conduit à fouiller dans des profondeurs pas forcément très hospitalières. On dit, par exemple, qu'il porte cette odeur de putréfaction des feuilles dans la forêt, ou toutes ces choses qui nous conduisent aussi à méditer la mort. Alors, c'est une huile essentielle d'une plante rare, qui pousse dans l'Himalaya, qui a été utilisée, qui a toujours été utilisée dans de nombreuses traditions, comme une huile de passage donc aussi et en particulier vers la mort, jusqu'à être associée dans la mythologie grecque, par exemple au phénix. Et donc le nard porte en lui-même cette préfiguration de la mort. Je veux dire, ça n'est pas son flacon de Chanel numéro 5 hein, qu'elle casse sur la tête de Jésus. C'est un tout autre geste. Et c'est pour ça que c'était important que vous le sentiez. Il porte, ce nard, cette acceptation profonde qu'il n'y a pas d'autre chemin possible et pas même pour le Messie. Et le nom hindou de la plante, qui est aussi son nom scientifique, est ce mot Jatamansi, qui en hindou signifie, et vous verrez que c'est magnifique, « esprit incarné ». C'est de cela que cette femme signe Jésus ce jour-là, en lui disant « Je te suis et je te crois parce que tu es l'Esprit incarné ». C'est ce sceau de l'incarnation que Jésus portera sur lui tout au long de sa passion jusqu'à la croix, posé par une femme qui a compris que Dieu s'incarne à ce point qu'il ne contourne pas la condition de mortel qui est la nôtre, mais l'épouse pour nous donner courage à tous. J'ai prié tout à l'heure que la parole ne soit pas discours, alors il me faut faire un aveu, mettons-nous d'accord, j'ai horreur de la mort. Elle me fait terriblement peur. Je suis suffisamment attachée à moi-même pour peiner vraiment à imaginer qu'un jour je ne sois plus là. Et Jésus pourra m'expliquer les choses comme il le fait avec beaucoup de patience et de diplomatie à longueur d'évangile. Rien n'y fait, non, je ne veux pas. Je m'attache à mon corps, à mes biens. Je m'attache à mes ancrages au cas où il pourrait me lester suffisamment pour que je ne disparaisse jamais. Je ne vous parle même pas des livres qui sont l'aveu, le symptôme de base de prétention à l'immortalité de l'écrivain. C'est encore un autre problème. Tout ça faisant de moi quelqu'un de relativement banal, finalement. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que s'il existe un exercice spirituel incontournable, c'est bien celui de méditer sa propre mort. Plonger en évangile requiert cette capacité, sinon nous voilà, comme souvent, comme les disciples au mont des Oliviers, incapables de garder un œil ouvert. Or, vivre de l'évangile, c'est vivre les yeux ouverts. Il y a dans cette capacité à apprivoiser notre finitude aussi un autre enjeu que pour soi-même et pour sa foi, un enjeu d'amour. Et le récit de la femme de Béthanie nous le dit à sa manière. Finalement, qui sont ses disciples qui disent être les plus proches de Jésus et sont si peu capables d'envisager sa mort? Se pourrait-il à lire ce texte qu'aimer ne puisse se qualifier qu'à cette condition-là? Aimer à ce point où même la mort de l'autre est envisageable, en tout cas envisagée dans ce texte. C'est un paradoxe de ce texte qui, pour ma part, retourne certains a priori contemporains et qui nous offre peut-être de repenser aussi l'amour autrement à l'aune de la mort, dans son articulation avec la mort. Et il se pourrait que celle qui aime le plus, ou du moins le mieux ici, soit celle qui accepte la mort de l'aimer. Alors oui, aimer aussi ne va pas sans une méditation de la mort, de sa propre mort, de celle des autres. Et c'est aussi cette méditation, je l'ai découvert en lisant un petit livre dont je vais vous parler, qui peut-être conditionne aussi notre capacité à transmettre. Et on le voit avec ce pauvre Moïse qui ne possédera pas la terre promise, il s'en est s'agit de peu, mais qui mourra avant de la posséder. Cependant, il mourra quand même en pleine capacité de la transmettre. Et j'ai lu dernièrement un petit livre de Nathalie Sartou-Lajuste, qui est directrice de la revue Études, qui s'appelle « Le geste de transmettre ». Et où elle fait cette réflexion que je vous partage et que j'ai trouvée très intéressante en disant « La panne actuelle de la transmission est en grande partie liée à la difficulté de s'inscrire dans la différence des générations, à la peur de vieillir et d'assumer son rôle d'aîné, mais aussi à la difficile acceptation de mourir et de céder sa place aux générations suivantes. » Nous devons consentir à mourir pour que d'autres naissent et vivent. C'est le cœur aussi du processus de transmission et du rapport entre les générations. Et là, nous sommes en plein avec notre Moïse, le pauvre homme, déjà tout jeune, flanqué d'une mission impossible pour laquelle il n'a ni désir ni appétit, puis qu'il accepte pourtant. Dire que cette mission lui procure des ennuis est encore un euphémisme. Il a ce genre de poste que certains connaissent dans leur métier où on est systématiquement entre le marteau et l'enclume, ici le marteau étant Dieu, l'enclume étant le peuple hébreu, qui, indéfiniment nostalgique d'un pays de servitude, préférerait finalement encore retourner en Égypte que de vivre l'angoisse de la liberté. Et voilà qu'en plus, notre brave Moïse, qui était tout de même méritant, pour n'avoir pas cru au miracle des eaux de Mériba, se voit informé par l'Éternel qu'il n'entrera pas dans cette terre promise qu'il cherche depuis 40 ans, entraînant derrière lui un peuple pas très motivé. Et lorsqu'il monte ce jour-là au mont Nebo, il sait qu'il y va pour mourir. Et que fait-il avant cela? Eh bien non, il ne maudit pas le ciel pour cet ultime coup de Trafalgar, mais il bénit les siens. Il bénit les Israélites, tribu après tribu. Il trouve du bien à dire à chacun. Il leur confirme l'accession à la terre promise, que la mort imminente dérobe sous ses pieds à lui, mais il transmet. Il accepte sa mort, qui confirme sa vie comme une étape, une portion de chemin, tout à la fois infime et essentielle comme chacune de nos existences, où avec notre pugnacité, notre tiédeur, notre couardise, notre courage, nos amours et nos lâchetés, nous essayons singulièrement le monde, nous essayons singulièrement la vie. Dans l'énumération panoramique du mont Nebo, on entend encore la diversité non plus des tribus, mais des paysages. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le Négev, la dépression du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Tout y est, l'abondance et l'aridité, la mer, le désert, les palmiers, monts et vallées, les chemins droits, les chemins courbes, la vie en somme, la vie en abondance que nul d'entre nous ne possède, la vie à transmettre. Et il me plaît à croire que Moïse alors vit quelque chose du frémissement d'une espérance pure, d'une espérance qui ne repose pas sur une illusion, une espérance concrète, en cet instant précisément où le sol promis se refuse à ses pieds, mais se donne à voir. L'espérance telle que la nomme Frédéric Boyer dans son très beau livre « Là où le cœur attend », vous me pardonnerez de ne citer que des catholiques ce matin. L'espérance est si difficile souvent, car il eût fallu trop recevoir si nous l'avions reçue. Est-ce que la secousse eût été trop brusque et trop forte si l'on avait tout reçu pour le posséder immédiatement ? Ou est-ce que nous obtenons quelque chose dans ce geste de l'espérance qui est de recevoir sans posséder? C'est cette espérance sans illusion et pourtant si joyeuse que nous méditons quand nous méditons la mort, celle de recevoir sans posséder. Et par la grâce et dans la force de l'Évangile, il nous est donné comme Moïse, comme dans le geste de bénédiction et d'envoi de la femme de Béthanie, de nous savoir avoir reçu sans pourtant posséder. Amen.
Je vous propose de chanter pour poursuivre le cantique 175 dans le petit recueil « Louange et prière ». Adorons Dieu notre Père. Les deux strophes donc de ce cantique 175.
Thank you.
pouvez prendre place. Grand merci à Marion Muller-Collard, donc de ce qu'elle nous a transmis comme lucidité, comme force, comme courage, comme soif de vivre en vérité, en fidélité. Merci, c'est vraiment pour moi très, très touchant. Et vous pouvez retrouver, je pense, un bon nombre de ces livres à la sortie, donc au comptoir de librairie, des livres que je vous recommande chaleureusement et qui se lisent avec facilité et avec grand bénéfice. Merci à Aurélien Péter, donc à l'orgue, qui est venu illustrer aussi ce message par ce qu'il nous transmet à travers ses nombreux claviers. Alors j'ai une pensée aussi à la personne qui s'occupe de la garderie en face. Effectivement, c'est une personne qui est dans le désert, puisqu'elle est privée de ce temps de culte, pour le service de l'autre. Donc une personne qui fait la Marthe pendant que nous sommes en train de faire les Maries ici. Et puis un petit pensée aussi pour les personnes qui ont préparé, mais là c'est secrètement parce que c'est derrière la porte en bois, il y a un pot en fait qui nous a été préparé pour avoir un temps d'apéritif, tant pour parler entre nous agréablement à la sortie de ce culte, tant aussi pour faire un corps, j'allais dire, parce qu'effectivement c'est mystérieux, le pouvoir de la nourriture, là encore des sens, ben pour nourrir une communion entre nous peut-être, en se rappelant aussi que nous sommes animaux, mais c'est vrai que dans le partage de la nourriture se joue quelque chose de la communion qui peut se tisser entre nous. Alors ça demande de l'intendance, donc merci aux personnes qui ont préparé. Ensuite, après ce temps de culte, après ce temps de partage, eh bien, vous êtes invités à aiguiser votre regard pour mieux apprécier une œuvre d'art et son message biblique dans notre annexe en face au musée du Louvre. Donc c'est Laurence Tardy et Étienne Trouvé qui préparent une fois par mois un rendez-vous comme cela pour aller, après un temps de partage du repas dans la grande sacristie, et bien d'aller en face pour analyser, lire une œuvre. Alors il est encore temps d'aller chercher un pique-nique éventuellement, soit au Franprix qui est derrière, soit à la boulangerie, je ne sais pas. Et il faut bien sûr prévoir de quoi pouvoir entrer dans le musée. Donc si vous avez moins de 26 ans, si vous êtes professeur, c'est tranquille. Sinon, bah oui, effectivement, il faudra payer, je pense, un billet. Et la fin de ce temps est vers 15h30. Si vous n'avez pas la possibilité de venir cet après-midi, bah vous pourrez aller au suivant qui a lieu le mois prochain. Alors ensuite, cette semaine, il y a l'hébreu biblique pour les progressants qui va commencer, qui va reprendre, donc c'est demain à 19h30 avec Christophe aux 4 rues de l'Oratoire. Et puis il y a à 20h, donc demain aussi, le début de notre cycle de philosophie et théologie pour cette année. On va s'ouvrir à un personnage par mois, pour chercher soit la religion d'un philosophe, soit la philosophie d'un théologien. Ça a été organisé par Denis Guénoun, par Philippe Gaudin et par Olivia Bell, donc trois de nos philosophes préférés, amis. Et donc demain soir, c'est Olivia Bell qui va monter de Montpellier pour nous parler de Pierre Bell, Bayle, comme on dit dans le Midi, effectivement à l'articulation entre la philosophie et la théologie, puisqu'il était un protestant, bien sûr, théologien, mais aussi un grand philosophe qui est précurseur, qui ouvre, dans un certain sens, le siècle des Lumières. Donc là aussi, il y a un petit bouquin qu'a écrit Olivia Bell sur Pierre Bayle qui peut vous peut-être prolonger ou préparer cette rencontre sans que, bien sûr, ce soit obligatoire de lire ce livre. C'est de toute façon une soirée qui est faite pour être accessible à tous ceux qui veulent réfléchir. Mardi soir, il y a une conférence, concert, ici même, pour l'année des 500 ans de début de la Réforme. C'est la Réforme à Paris, 1520-1560, préparée par Philippe Bronstein, qui est donc historien, Aurélien Péter, qui était donc à la tribune, qui va nous préparer aussi de la musique d'orgue, donc de cette époque, bien sûr. Stanislas Siviorek, qui est acteur, qui va nous dire des textes de cette époque-là, des textes en particulier de Marguerite de Navarre, de Clément Marot, de théologiens, et puis peut-être aussi de Martin Luther. Et puis l'ensemble vocal de Fabien Aubé, qui est notre chef de chœur, qui va aussi nous faire entrer dans cette époque du début de la Réforme à Paris. Ça accompagne l'exposition qui est dans la chapelle et qui a été préparée par la même équipe. Donc ça, c'est mardi soir, ici même, à 20h. Jeudi, il y a la répétition du chœur de l'oratoire, il est encore temps de le rejoindre. Et puis samedi, il y a la prière silencieuse à 18h, donc en face, dans 4 rues de l'oratoire, un moment de partage autour de chants, de textes, de prières et de recueillement avec mon collègue, le pasteur Richard Cadou. Et puis dimanche, le culte à 10h30, comme tous les dimanches que Dieu fait. Et il y a aussi donc l'éducation biblique dimanche prochain, donc avec une bonne partie des 150 enfants inscrits au catéchisme qui seront là et qui vont toute la journée chercher, là aussi, par le culte et par l'étude, à s'ouvrir à tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Effectivement, là aussi, l'Église, pour pouvoir porter un témoignage, pour nous réunir aussi, a besoin de quelques sous. C'est une façon de remettre en perspective dans notre existence la place du spirituel et du matériel. Je vous propose de vous unir à cette prière d'André Dumas, qui était donc un théologien. Notre Dieu, donne-nous d'être assez fous pour oser croire et assez sages pour chercher à comprendre. Chasse de nous l'hésitation, la paresse, combat en nous la suffisance et l'orgueil. Fais que nous te préférions à nous-mêmes et que nous aimions grâce à toi. À nous qui sommes les pierres vivantes de ton Église, donne courage et joie, patience et passion, bataille et retrouvailles. Donne-nous surtout d'être faibles à ta manière dans l'amour et forts à ta manière dans la fidélité. À nos églises, donne le plaisir d'être des églises appelées des quatre coins, envoyées aux quatre coins, assez simples pour que quiconque s'y découvre, assez libres pour que quiconque s'y exprime, assez vives pour que personne ne s'y ennuie trop. À notre monde, donne une justice sans oppression, une liberté sans omission, une paix sans mensonge. Car tu es un Dieu parfait, c'est-à-dire un Dieu qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, qui fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Que notre perfection soit à l'image de la tienne, généreuse et prodigue, appliquée et vivifiante. Donne-nous de grandir, nous qui sommes toujours des enfants. Donne-nous de rajeunir, nous qui sommes toujours des vieillards. Donne-nous de marcher, nous qui sommes toujours un peu boiteux. Donne-nous ton repos quand monte notre fatigue. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a transmise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction qui vient de la part de Dieu, bénédiction qui nous est donnée au singulier, individuellement, à chacune et chacun, selon les paroles données à Moïse. L'Éternel te bénit, toi, et il t'accompagne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Éternel notre Dieu, sois béni par tes enfants.